SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. C'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission. Donc une heure de relaxation, de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi. Et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, aujourd'hui dans notre rétrospective, Valentine Saboureau revient sur le sacre d'une australienne. La vivacité, le charme et la personnalité de Jennifer Hodgkins lui ont en effet permis de devenir Miss Univers, un titre prestigieux sponsorisé à l'époque par un certain Donald Trump. Et oui, récit avec, entre autres, les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
And the winner, Universe 2004, Australia!
Congratulations, ladies and gentlemen, the new Miss Universe!
Le 1er juin 2004, à Quito, en Équateur, Jennifer Hodgkins devient la reine de beauté ultime en remportant le 53e concours de Miss Univers sous un tonnerre d'applaudissements. Deuxième fois sur deux qu'une Australienne est récompensée, c'est une victoire à marquer d'une pierre blanche pour le pays et pour la jeune mannequin de 20 ans, originaire de Newcastle. Fondée en 1952 par l'entreprise américaine Pacific Knitting Mills, le concours de Miss Univers change régulièrement de main au fil des décennies, mais continue de promouvoir une certaine idée de la femme. En effet, loin d'être réduite à leurs seuls atouts physiques, les participantes doivent aussi faire preuve d'intelligence, de culture générale et d'excellentes manières. Souvent, ce sont les gagnantes de concours nationaux qui sont envoyées à Miss Univers. Ce n'est toutefois pas une obligation. Retour en 1952, lors de la sélection en France, seul pays avec le Canada à avoir envoyé une candidate chaque année depuis l'existence du concours. Ça se passe au Moulin Rouge.
Parmi toutes les ravissantes anatomies qui défilèrent dans le traditionnel bikini, le choix devait se révéler difficile. Et Mademoiselle Luce Aubertin, 24 ans, l'emporta après bien des hésitations.
En 2004, l'Australienne qui est choisie n'est pas passée par la case Miss Australia. Jennifer Hodgkins est une simple pom-pom girl, mannequin et danseuse qui n'a jamais quitté son pays. 1m80, des cheveux ondulés blonds, un sourire éclatant, un diplôme de secrétaire juridique en poche, elle avoue être intéressée par le surf, le wakeboard et le ballet. Face à elle, 79 candidates de 18 à 26 ans sont venues des quatre coins du monde, depuis l'Angola jusqu'au Vietnam, en passant par la Géorgie, la France ou l'Uruguay. La soirée est retransmise à la télévision. Évidemment, lancement.
Tonight, you're going to witness the ultimate geographic phenomenon. 80 ambassadors of beauty have landed right smack in the middle of it all. And I've got one thing on my mind.
Yeah, I know. We all know, Billy.
Who's going to win the title? Miss Universe 2004!
That too!
Le jury de cette édition du 1er juin 2004 comprend mannequin, star de télévision, un sportif, le musicien et producteur Emilio Estefan, l'actrice Boderek et un représentant de Trump Model Management, ancienne agence de mannequinat de Donald Trump. À l'époque, il est propriétaire du concours. L'élection se déroule en plusieurs étapes, une présélection de 15, puis 10, puis 5 jeunes femmes. Le traditionnel défilé en bikini, cette année sous une pluie artificielle, est suivi d'une traditionnelle parade en tenue de soirée. Les candidates doivent aussi répondre à des questions, la plus difficile étant la dernière, tirée au sort et rédigée par une participante. Elle exige que la réponse soit bien formulée et intéressante. On écoute Jennifer Hawkins.
If you could choose what time period to be born and what sex to be, what would you choose and why?
I'd have to say that this time period, because we have as much freedom as we want, and I choose the sex of female because females have a lot of say in today's society. So I'd say this century, this today.
Finalement, après un suspense intenable, le verdict tombe. Dans sa robe au décolleté plongeant signée Paris Dwyer, Jennifer Hawkins semble tout étourdie et ravie. Elle se voit remettre l'écharpe de Miss Univers et la gagnante de l'année précédente dépose sur sa tête la lourde tiare étincelante inspirée du phénix et dessinée par Tomohiro Yamaji pour Mimi Moko. L'Australienne va s'installer à New York pour un an, assurer des prestations de représentation au profit de causes importantes, tout en profitant de nombreux avantages matériels et de cadeaux. Un an plus tard, en remettant à son tour le titre à une nouvelle Miss, elle remercie ceux qui l'ont soutenue.
Thank you to everyone at the Miss Universe organization, to Mr. Trump, my roommates, and especially my friends and family. Last but not least, to the Aussies back home. You have given me nothing but positive support, and that means so much to me.
Le concours Miss Univers rencontre un grand succès en Amérique, en Afrique ou en Asie. La France a gagné deux fois le titre ultime, tout comme l'Australie. Depuis 2013, les femmes transgenres sont autorisées à concourir. Par ailleurs, elles peuvent désormais être mariées et même mères de famille. L'édition 2024 accueillera aussi plusieurs nouveautés. L'Arabie Saoudite s'apprête en effet à envoyer sa première candidate et c'est une femme de 60 ans qui représentera l'Argentine, un âge inédit dans l'histoire de la compétition.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Connu la voix de Catherine Ringer sur cette chanson Love Me, Please Love Me. Les plus anciens d'entre nous se rappelleront que c'est une chanson de Michel Polnareff. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Johan Duru, surfeur professionnel français. Johan fait partie des 4 surfeurs qui représenteront la France aux Jeux Olympiques cet été. Il participait ce week-end au Sydney Surf Pro, une compétition internationale de surf qui s'est tenue au nord de Sydney, à North Narrabeen. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Johan et bienvenue sur SBS French.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors Joanne, on est donc à un peu plus de 2 mois des Jeux Olympiques. Ma première question, ce sera comment vous vous sentez au sortir de cette compétition à Sydney? Comment sont vos sensations?
Bien, c'était plus une compète presque en préparation pour garder le rythme. Mon objectif, c'est vraiment les JO, donc là, c'est plus pour garder le rythme et voir où j'en étais.
Alors avant Sydney, vous étiez aussi à Gold Coast pour une compétition similaire. Ce genre de compétition, quel rôle ça joue dans votre préparation? Est-ce que c'est un bon moyen de trouver des repères, de garder le rythme finalement à 2 mois des Jeux Olympiques?
Pas vraiment pour se préparer pour les JO, mais il y a quand même une qualification, c'était en fin d'année, donc vu que c'était loin des JO, je me suis dit que si je faisais de gros résultats, je pouvais me qualifier en double CT, donc je suis venu pour ça au cas où. Mais c'est pas vraiment une préparation pour les JO, la vague n'a rien à voir, mais après ça fait garder le rythme, rester assez focus et concentré sur un objectif plutôt que d'être à la maison sans objectif. Donc ça faisait un petit break avant d'aller me concentrer à m'entraîner à Tahiti.
Alors l'Australie, c'est un pays que vous connaissez, c'est pas la première fois que vous y mettez les pieds. Comment est-ce que vous appréciez l'Australie, que ce soit l'ambiance sur les compétitions de surf ou bien plus largement les vagues australiennes?
Oui, c'est pour ça que je suis venu aussi, c'est les deux plus belles compètes de l'année sur les Challengers. Il y a celle-là, Narrabeen, c'est une super gauche, et Snapper qui est une super droite, donc il y a vraiment deux vraiment belles vagues world class. Snapper s'est redevenu un CT qui était un CT, donc c'est vraiment deux très belles vagues, et c'est pour ça que je suis venu aussi, parce que c'est deux belles compètes et on peut avoir des super vagues.
Et avec un temps qui a été quand même capricieux ces dernières semaines.
Oui, c'est vrai qu'il est un peu plus ici. On aurait dit les Landes.
Donc ça va, vous n'étiez pas trop dépaysé finalement?
Ouais, c'est vrai, on était prêts.
Alors justement, quel bilan vous allez dresser de ces deux compétitions en Australie? Est-ce que vous avez rempli vos objectifs personnels à Gold Coast et à Sydney?
Non, pas du tout. J'ai pas été bon, mais bon, c'est pas l'objectif principal, donc. Maintenant, je vais me concentrer sur les JO. Là, j'étais motivé, j'étais entraîné, tout ça, mais ça s'est pas bien passé. J'ai pas fait de bonne série. Mais, au final, c'était plus pour rester dedans, donc c'est pas trop grave. L'objectif était vraiment les JO, donc maintenant, je vais pouvoir m'y consacrer à fond.
Alors, justement, c'est quoi la suite du programme pour vous? Quand est-ce que vous quittez l'Australie et surtout, quand est-ce que vous rejoignez Tahiti pour vous entraîner?
Et là, je rentre en France 10 jours et je pars à Tahiti. Directement, je rentre vite fait chez moi, me préparer et je vais récupérer mes planches pour Tahiti et j'y vais. Ou jusqu'au JO ou un mois minimum, je sais pas trop encore.
Alors sur ces compétitions sur la côte est de l'Australie, vous étiez aussi avec d'autres surfeurs qui vont prendre part aux Jeux Olympiques, avec l'équipe de France, on l'a dit, Vaine Fiero et Kaoli Vast. Est-ce que pour vous c'était l'occasion justement de créer du lien avec ces autres surfeurs de l'équipe de France? Je ne sais pas si vous allez avoir l'occasion de vous recroiser à de nombreuses reprises avant le début des Jeux Olympiques.
Je les ai pas trop vus ici, mais je pense que je les verrai à Tahiti. On va s'entraîner en même temps. Je pense qu'on a les mêmes entraîneurs, donc je pense qu'on va plus passer de temps à Tahiti pendant les entraînements.
Alors on parle de la compétition de surf pour les Jeux Olympiques à Tahiti. Ce sera sur le spot mythique de Te Aupo. Vous avez déjà surfé là-bas. Comment est-ce que vous estimez, comment vous jugez votre connaissance de ce spot?
Je le connais pas trop mal. J'ai fait 4 ou 5 compétitions là-bas déjà, mais c'est une vague assez compliquée, elle est assez parfaite, mais il faut quand même bien la connaître. C'est pour ça que j'y vais en avance et que je veux vraiment m'entraîner là-bas, parce que faut la connaître. C'est un riff qui est assez particulier, il faut vraiment la connaître pour bien performer.
Alors un mot peut-être sur votre qualification aux Jeux Olympiques, justement, vous l'avez décroché début mars, si mes souvenirs sont bons, après plusieurs années qui n'ont pas été si simples, entre des blessures, vous évoquiez aussi auprès du magazine Surf Session la perte de votre sponsor, ça a dû être une émotion particulière, j'imagine, quand vous avez appris cette qualification.
Ouais, parce que 2019, je m'étais blessé, après j'ai perdu mon sponsor El Covid, donc... J'ai failli arrêter à ce moment-là, j'ai vraiment continué parce qu'il y avait les JO qui arrivaient en France et je voulais vraiment me qualifier, donc sans sponsor et tout ça, c'était dur. J'ai dû m'investir à fond dedans et du coup, j'étais super content de décrocher ma qualification. Puis sur la deuxième épreuve qualificative, donc c'était la dernière là, il restait une place chez les hommes, heureusement. J'ai réussi à prendre.
Alors, est-ce que vous avez eu le temps de digérer? Comment on se reconcentre finalement après une telle nouvelle? Comment est-ce qu'on digère une telle qualification et on se reconcentre sur ses objectifs pour les Jeux Olympiques?
Tout allait vite parce qu'après j'ai enchaîné sur le WCT au Portugal, j'ai une wildcard. Donc j'ai enchaîné sur une autre compète et après je suis rentré que deux semaines après à la maison. J'ai bien fêté ça et c'est pour ça qu'après j'ai fait une bonne fête avec la famille et les potes et après j'avais l'objectif d'Australie, comme ça me remettait un objectif à court terme pour rester focus et rester dedans et pas trop me disperser et rester un objectif principal qui était les JO, mais avec un petit focus sur une compète avant, ça m'a fait garder un focus peut-être plus rapide.
Alors, il y aura quatre surfeurs français qui représenteront donc l'équipe de France pour les Jeux Olympiques à Tahiti. C'est quoi finalement la plus grande force de cette équipe de France aujourd'hui? Comment est-ce que vous estimez vos chances?
Ouais, il y a deux Tahitiens, filles et garçons, donc qui connaissent très bien le spot, donc c'est un gros atout. Et après, il y a Joanne Defay et moi, on n'est pas de là-bas, mais Joanne Defay, elle est deuxième mondiale en ce moment, c'est une des meilleures surfeuses du monde. Et moi, je grandis dans les Landes, c'est pas du riff, mais on a des bons tubes, donc je me sens à l'aise avec la creuse. Après, là-bas, hein, c'est dur et dangereux, donc faudrait que je m'habitue, mais je me sens assez bien pour cette vague. Et on a fait cette équipe, on était au championnat du monde hier ensemble, on a eu une super cohésion, ça c'est une des meilleures équipes de France que j'ai eues en tant que cohésion. Donc j'espère que ça va rester comme ça pour les JO, même avec la pression, qu'on aura une bonne ambiance dans la maison.
Alors un mot aussi sur Jérémy Florès, il a été nommé manager de cette équipe de France. Jérémy, il a une expérience de l'olympisme, il a pris part aux précédents Jeux pour l'équipe de France, ceux de Tokyo au Japon. Qu'est-ce qu'il change pour vous? Qu'est-ce qu'il apporte à votre préparation et à celle de l'équipe pour ces Jeux Olympiques?
Mais c'est trop bien parce que c'est un des meilleurs surfeurs au monde, le meilleur surfeur à Tupou, il a gagné là-bas. Et surtout, c'est qu'il amène son savoir tout en restant lui-même. Enfin, nous, on est potes à la base, donc il amène son savoir et son sérieux tout en restant lui-même et en étant pote, en ayant une bonne ambiance. Ça met une super ambiance dans le team. On rigole, on a des super moments. Après, il nous fait nous reconcentrer avant la compète. Mais ça fait, on a vraiment ce détachement de la compète, savoir être déconné ensemble et après être sérieux au bon moment. Et, enfin, nous, on a toujours été comme ça, mais avec la pression d'une compète et d'autres gens, il détend bien l'équipe.
Alors, vous l'avez dit à plusieurs reprises, ces Jeux Olympiques, c'est votre dernier gros objectif dans votre carrière. Est-ce que c'est aussi le plus gros de votre carrière? Est-ce que c'est l'événement le plus important de toute votre carrière?
Ben, j'ai grandi, il n'y avait pas les Jeux Olympiques dans le surf, donc nous, notre rêve, c'était le CT. Donc mon gros objectif quand j'ai grandi, c'était le WCT que j'ai réussi à atteindre. C'était vraiment mon objectif principal. Mais là, depuis qu'il y a les JO, surtout en France, c'est vrai que c'était le gros objectif de ces dernières années, oui. Et ça peut être, ça sera la compétition de ma carrière, ouais, je pense. Parce que là, c'est sur une compète en plus.
Il y avait une forme de frustration peut-être de ne pas avoir pris part aux précédents Jeux Olympiques, à ceux de Tokyo en 2020, finalement décalés en 2021.
Il y aurait eu, ouais, si je ne m'étais pas qualifié ici pour ceux de Paris. Mais il y a eu plein d'histoires. Ça s'était mal passé à la fin en tant que remplaçant. Mais j'étais que remplaçant à la base. Jérémy et Michel étaient devant moi. Et après, j'aurais peut-être pu y rentrer, mais non, je sais pas, ça s'était mal passé au final, mais j'étais pas aussi motivé que pour ceux de Paris, là. C'est vraiment ceux-là qui me tenaient à cœur.
Et oui, on imagine que, en tant que Français, représenter la France pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Comment est-ce que vous vivez la montée de la ferveur autour de ces Jeux Olympiques? On a vu la flamme olympique, qui est arrivée en France. Comment est-ce que vous suivez tout ça?
Ben ouais, c'est énorme. Là, je commence à m'y mettre plus dedans et c'est sûr que il y a un peu la pression qui monte, tout ça, quand je me visualise là-bas, mais je suis tellement content de m'être qualifié, donc j'essaie de vraiment profiter de tous les bons moments jusqu'à la compétition.
Alors vous l'avez annoncé, vous l'avez redit dans cette interview, les Jeux Olympiques ce sera votre dernier gros objectif dans votre carrière. Est-ce qu'on peut quand même s'attendre à vous revoir en Australie sur des compétitions dans les années à venir ?
C'est possible, je n'ai pas dit fermer le tout, mais c'est sûr que ça c'est mon dernier gros objectif et après ça je serai vachement plus relax, mais je sais pas, je me sens bien dans mon surf, j'ai fait des bons résultats en début d'année et je me sens super bien, peut-être mieux que jamais, donc pourquoi pas, je sais pas.
Eh bien merci Johan d'avoir été avec nous pour parler de surf et des Jeux Olympiques sur SBS French. On n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne préparation et bon courage dans cette dernière ligne droite avant les Jeux Olympiques. On le rappelle, les épreuves de surf auront lieu à Tahiti sur le spot légendaire de Te Aupo.
Merci beaucoup.
À bon entendeur avec cette chanson Baby, c'est vous et la voix de Sylvie Vartan. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler de terroir, d'histoire et surtout de whisky. Je vais vous laisser vous présenter parce que je fais souvent ça quand il y a deux invités. Donc allons-y.
Eh ben bonjour, Jean-Arnaud Franzen, je suis le maître de chez Michel Couvreur depuis 1998.
Cyril Deschamps, je suis le gendre de Michel Couvreur et nous sommes avec Alexandra Couvreur Deschamps, les propriétaires de l'entreprise Michel Couvreur depuis 2007 et nous travaillons en famille puisque j'ai deux de mes garçons qui travaillent avec nous.
D'accord, alors parlons peu mais parlons bien du whisky, c'est ça Michel Couvreur,
oui.
Parlez-nous un petit peu de l'histoire de la maison et du whisky, je serais tenté de dire, bon c'est une tradition plus celte, en tout cas ce qui dirige plutôt vers l'Écosse, mais il y a du whisky un peu partout dans le monde, on va discuter de ça, alors mais parlons un petit peu de la maison Michel Couvreur.
Exactement, eh bien Michel Couvreur est un Belge passionné des vins de Bourgogne qui s'est installé en Bourgogne en 1951. Il a décidé d'ouvrir un chai d'élevage. À l'époque, c'était le négoce. Et à l'époque, on lui a dit, vous êtes belge, donc vendre sur le territoire français, c'est pas terrible. Mmh. Et lui, il s'est dit, moi, j'ai mes entrées en Belgique, des entrées en Grande-Bretagne. Et il a commencé à proposer ses vins de Bourgogne en Grande-Bretagne. Je vais essayer de résumer un peu, mais fin des années 70 et début des années 80, un peu moins satisfait de la qualité des vins de Bourgogne, et c'est sa clientèle haut de gamme, alors qu'il s'était installé à Londres, lui demandait, mais Michel, est-ce que vous n'avez pas les moyens de nous trouver des whiskies? Et c'était ainsi qu'il est allé en Écosse, savoir comment on faisait le whisky. Et pour résumer, le whisky, c'est ni plus ni moins qu'un alcool de céréales, qui est vieilli au minimum 3 ans dans un fût de bois d'une contenance inférieure à 700 litres, et qui conserve un degré supérieur à 40.
C'est la base du whisky.
Ça, c'est la base du whisky, et c'est universel. C'est-à-dire qu'on peut faire du whisky partout dans le monde, mais je pense qu'on y viendra par la suite.
Oui, tout à fait. Justement, ce produit, je parle au maître de chai qui est avec nous. Qu'est-ce qui fait un whisky spécifique ? Il y a le whisky écossais, il y a les whisky irlandais, il y a les whisky japonais, il y a les whisky bretons. Enfin, qu'est-ce qui fait que votre whisky est un petit peu différent? Est-ce que c'est le bois? Est-ce que c'est la nature du produit en lui-même? Où est-ce qu'on voit la différence?
Alors déjà pour l'origine, en fait, on est à côté de Beaune, on est en Bourgogne, et l'idée c'est simplement d'être à mi-chemin entre l'Andalousie et l'Écosse.
D'accord.
C'est-à-dire que nous on fait vieillir nos whisky dans des fûts de Xérès, et Michel Couvreur a démarré vraiment ce projet de whisky en se disant, je veux absolument me trouver des fûts de vin. La tradition du scotch, c'est l'élevage dans des très très vieux fûts de Xérès. Ma cave est à mi-chemin entre l'Écosse et l'Andalousie. Les saveurs chaleureuses de l'Andalousie associées au frimas et au froid de l'Écosse, je suis entre les deux, j'ai réuni les deux. Nous, notre particularité, c'est vraiment le vieillissement. C'est la qualité de pas de travailler sans filtration, tout par gravité, et d'essayer d'obtenir une texture, une persistance, une longueur, une complexité, un équilibre. Souvent, on a des articles qui nous lient au vin. On a une approche du whisky qui est assez proche du vin dans la dégustation. Ne pas avoir de sensations d'alcool et des équilibres, même des acidités, des rondeurs, des complexités. Et c'est exactement ça qu'on cherche. Notre approche est un peu le fait d'être au milieu de la Bourgogne. On a tous une formation un peu de vin avant de démarrer le whisky. Et c'est ce qu'on aime. C'est vraiment avoir retrouvé ces équilibres-là qui apportent une complexité, une émotion qu'on aime dans le whisky.
On ne dit pas qu'on en met dans le biberon, mais pas loin quand même.
Ah, on a démarré jeune. Hein.
Est-ce que le climat y joue pour beaucoup dans le produit fini?
Alors ça, c'est les grosses questions. Il y avait Andrew G. Ford qui avait fait un article qui était passionnant. C'est Location Does Matter, qui essaye de dire est-ce que vraiment l'origine, l'endroit où on fait du whisky est important. Et ça, c'est des grosses questions. Alors nous, en ce moment, on y travaille beaucoup parce qu'on a commencé à distiller en janvier 2022 avec de l'orge locale, biodynamique, en bio. Maintenant, c'est des questions qui sont toujours assez complexes parce qu'il y a énormément de facteurs qui interviennent dans une qualité d'un whisky. Le maltage, les fermentations, le type d'alambic qu'on utilise, l'âge. Évidemment, un jeune whisky qui a 3 ans, l'influence du fût est peut-être moindre qu'un whisky qui a 12 ans ou 25 ans. Donc il y a énormément de facteurs, mais en même temps, c'est ce qui est passionnant. C'est-à-dire que le whisky standard n'existe pas.
Il y a un facteur essentiel que nous, on constate tous les jours, c'est le taux d'humidité de notre cave. Mmh. Notre cave est 15 mètres sous la roche, 2 fois 130 mètres de galerie sous la roche, que mon beau-père, Michel Coureur, avait fait creuser à l'époque pour le vin, et qui, depuis maintenant 2000, depuis 1989, accueille des alcools de céréales qui ont été vieillis. Puisque pour la petite anecdote, ma belle-mère avait refusé que mon beau-père puisse acheter une distillerie en Écosse. Et justement, l'aventure familiale, c'est qu'aujourd'hui, avec Alexandra, on a remonté, comme Jean-Arnaud en parlait précédemment, cette distillerie en 2022 avec deux de mes garçons, Albéric et Stanislas. Et que l'objectif, Alexandra, son plus grand souhait, ce serait peut-être un jour de revenir en Écosse pour monter aussi une distillerie en Écosse. Et comme ça, la boucle serait bouclée. Mais le terroir, est, en tout cas, nous on croit au terroir du fût. Et de la qualité, en fait, des fûts de sherry qui ont été imprégnés pendant des grands vins, pendant plusieurs dizaines d'années, par des grands vins de Bourgogne.
C'est la clé du whisky, ça? C'est vraiment la clé?
En fait, il faut imaginer l'alcool comme un vecteur des arômes. Donc, vous pouvez mettre un excellent alcool, excellemment bien distillé, dans un fût. Si le fût n'a rien contenu au préalable, il va restituer des saveurs de vanille, de côté d'amande douce, mais ce sera pas très complexe. En revanche, si le fût a été imprégné pendant plusieurs dizaines d'années par un vin, et seuls les vins essentiellement de RRS vieillissent plusieurs dizaines d'années dans le fût, eh bien là, vous allez pouvoir avoir l'alcool va extraire toute la complexité aromatique qui restait piégée dans les fibres de bois, et là, vous allez obtenir avec le temps vraiment une émotion fabuleuse grâce au whisky.
Alors la question d'après, c'est qu'est-ce que devient le fût du whisky une fois qu'il est utilisé pour le whisky, où est-ce qu'il va? On fait quoi derrière?
Eh bien, derrière, justement, on va utiliser pour d'autres whiskies. Si le fût, en fait, globalement, si le fût a été imprégné pendant 50 ans, on va pouvoir globalement l'exploiter pendant 50 ans. Et après, nous, ce qui se passe sur les fûts qui n'ont plus rien à donner, eh bien, on va l'utiliser. Alors autrefois, pour le barbecue, tout simplement.
On en fait des tables, des chaises,
et
on
après,
fait des bars à pizza.
Et voilà. Et nous, on a notre parquet qui a été refait en fait dans nos bureaux avec les douelles de fûts.
Ouais, c'est incroyable.
Non, nous, on apprécie un fût et il a toujours une vie. Et donc, nous, on adore faire des échanges de fûts.
Exactement.
Et donc, maintenant, vous avez toute une tradition. Il y a des domaines de vin comme le Stéphane Tissot dans le Jura, comme Cantillon à Bruxelles qui fait des bières vieilles dans des fûts de whisky. Faut considérer que le chêne est imputrescible. Et ça, il faut vraiment toujours le garder en tête. C'est quelque chose qui servait pour le transport au départ, qui a permis de faire voyager des vins et des alcools à travers le monde. Et maintenant, même après 50 ans, nous, on a des fûts qui ont 120 ans, 130 ans en cave. C'est un musée. C'est une histoire. Et c'est une imprégnation qui est énorme. Donc, on donne nos fûts à des vignerons, donne donner fût à des brasseurs de bière qui marquent l'aromatique avec nos whiskies.
Et ça donne du goût au barbecue, pardon. Et...
Oui, alors moi j'ai toujours un petit peu, j'ai une larme qui coule à chaque fois quand j'ai une douelle de fût qui coule dans le barbecue.
Je vous pique,
mais vous avez raison, c'est une très très bonne idée.
Petite question et après on va repartir sur l'historique et le futur de votre maison, mais est-ce que l'évolution climatique vous fait peur en tant que maître de chai? Vous pensez à 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans en avance. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une certaine appréhension sur l'avenir justement de produits alcooliques comme les vôtres?
Alors, je pense qu'on est obligé d'y penser, ça c'est certain. Il y a évidemment plusieurs raisons, parce que vous avez trois, à mon avis, il y a à peu près trois raisons là-dessus. La première, évidemment, c'est la production de céréales. Donc, le changement climatique, évidemment, influe sur la production de la céréale. La deuxième chose, j'allais dire, bon, là on est un peu moins impacté, mais c'est sûr que ce que disait Cyril, les températures de cave, les humidités des caves interviennent sur le changement climatique. Mais évidemment, le gros point, c'est que produire, distiller, consomme beaucoup d'eau, consomme beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'au départ, vous faites comme une bière, c'est une recette de bière que vous allez distiller. Donc une bière, c'est des paliers de température qui sont entre 60 et 80 degrés Celsius, qu'il faut refroidir pour avoir une fermentation alcoolique. Et après, on refait des paliers à 90 degrés qu'on condense pour condenser les vapeurs d'alcool pour obtenir un liquide. Donc on passe à des paliers à chaque fois entre 20, 80 tout le temps. Et vous partez d'un fruit sec et vous obtenez un liquide. Donc évidemment, ça c'est des gros sujets. Donc nous, on se pose beaucoup de questions là-dessus et en même temps, il ne faut pas le prendre comme un côté négatif. C'est un peu un challenge de se dire produire un whisky en consommant moins d'énergie, en gaspillant pas l'eau. Et maintenant, ça paraît presque naturel de le faire, mais il faut y réfléchir dès maintenant.
Mais pour vous, il faut garder une certaine constance dans le produit fini également. Un produit de votre maison, c'est un produit de votre maison. Ou est-ce que vous allez adapter justement le produit final dans vous projetez déjà à 20 ans, 30 ans, 40 ans en avance par rapport à ce que vous avez aujourd'hui?
C'est obligatoire. C'est-à-dire que nous, on est des entreprises où vous pouvez pas, on réfléchit à un an, c'est très bien, on y discute, on fait des réunions d'équipe. Par contre, des réflexions, c'est plutôt à 5 ans, 10 ans, 15 ans. J'ose pas dire 20 ans, mais c'est vrai que c'est sur du long terme. Et en même temps, c'est la magie de notre travail. Sans Michel Couvreur, moi, je ne serais rien. La cave, il y a le stock serait zéro et on ne pourrait rien faire. Comme de la même façon, les enfants de Cyril, dans 10 ans, 15 ans, quand ils reprennent, sans ma petite brique, sans la brique de Cyril et Alexandra, ils ne peuvent rien faire. Et c'est la magie de nos travaux. C'est-à-dire que forcément, vous dépendez des générations précédentes et c'est la vie et on est juste un passage, un moment et on essaie de constituer un stock. Donc ça, évidemment, il faut y réfléchir. La gestion du stock, c'est un travail permanent. Vendre pour pouvoir faire ce qu'on aime et proposer des très bons whisky, mais en même temps, ne pas tout vendre, conserver, pouvoir faire vieillir, réfléchir, est-ce que ce distillat est capable de vieillir 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'on offre à la génération suivante? Mais ça, ça fait partie, je trouve, justement, un peu de la magie de nos métiers.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Tu voulais comme les oiseaux t'envoler vers le nord, des histoires de corbeaux ne te font pas peur.
Pomme qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de juin. Le temps des fleurs. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Et bien aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS, on a le plaisir d'avoir notre ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Humbert. Bonjour.
Bonjour, ravi d'être parmi vous.
Alors, on s'était déjà rencontrés maintes et maintes fois. C'est la première fois, je crois, officiellement dans nos studios à SBS. C'est un honneur. Et on a aussi Myriam Boisboulier-Wiley. Bonjour.
Bonjour, Christophe.
On va parler justement du consulat à Melbourne, parce qu'il y avait des annonces qui avaient été faites récemment lors d'une visite ministérielle. Ces annonces sont mises en effet, en fait.
Absolument. Et c'est une excellente nouvelle pour la communauté française en Australie. Notre ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, avait annoncé que la création d'un consulat général à Melbourne était à l'étude en décembre dernier. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons officiellement ouvrir un consulat général à Melbourne en septembre prochain, 170 ans après l'ouverture de la première agence consulaire à Melbourne.
C'est énorme, 170 ans, ça relate toute l'histoire que la France peut avoir, justement, l'histoire diplomatique également, avec le pays comme l'Australie. Myriam, vous êtes avec nous, vous avez exercé dans le rôle honoraire de consul, brillamment d'ailleurs, je tiens à le dire. C'est une très bonne nouvelle pour la communauté à Melbourne.
Absolument, et ça témoigne de la chaleur des relations tant diplomatiques que politiques, qu'économiques, que culturelles, qu'éducationnelles qui existent entre la France et le Victoria. Et je me souviens avoir été là quand le consulat avait été fermé en 2000 et beaucoup d'émoi. Et maintenant, il va y avoir le même émoi, mais dans l'autre sens.
Le
bonheur.
Tout peut se réinventer, parce que c'est vrai qu'il y avait eu un consulat à Melbourne qui était présent. Pour différentes raisons, il avait été fermé. La différence entre un consulat honoraire et un consulat, entre guillemets, officiel, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? Pourquoi c'est important d'avoir une représentation officielle plutôt qu'honoraire ?
Alors là, vous allez mettre un point extrêmement sensible.
Je mets le doigt dans l'engrenage.
Mais vous avez absolument raison, parce qu'en fait, Myriam a fait un tel travail.
Extraordinaire.
Extraordinaire. Je veux dire, elle a mis tellement de passion, de talent, d'investissement, de dévotion à la communauté française pour la faire vivre sous tous ses aspects, la vie culturelle, économique, politique, qu'on en venait même à se demander, en fait, elle n'était pas la consule presque à vie de notre communauté française, exerçant la plénitude de ses fonctions.
Je vous interromps juste 30 secondes. Quand on parle à d'autres communautés, il y a des personnes qui ne... Quand on voit ce qu'un consul honoraire fait et surtout ne fait pas, c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir Myriam ici, parce que c'était bien au-delà des fonctions.
Absolument. Et la chance qu'on a toujours, c'est que Myriam va continuer et a accepté de continuer de mettre ses talents au service de la communauté française et des échanges franco-australiens, notamment en présidant la nouvelle Fondation pour les échanges culturels entre la France et l'Australie, qui fait partie de la feuille de route de deux gouvernements et qui est en train d'être bâtie pas à pas par Myriam et son équipe, et je l'en remercie très vivement.
D'accord, donc Myriam, si on devait mettre une chanson, c'est « Ce n'est qu'un au revoir » au lieu de « Comment te dire adieu ».
Exactement. je cherche le titre de la chanson, mais là, c'est pas mal.
Si on venait justement aux différences entre un consulat honoraire, officiellement, et un consulat officiel français.
Le consulat officiel français est donc une représentation diplomatique exercée par un consul qui est un personnel diplomatique du ministère des Affaires étrangères, qui exerce donc une fonction qui, comme l'ambassadeur, en fait, est nommé par le ministère des Affaires étrangères et va exercer pendant des périodes de 3 à 4 ans et tourner et donc assumer la plénitude des relations diplomatiques. Donc en fait, c'est donc alors que le consul honoraire repose sur le volontariat de la personne, sur le temps qu'elle accepte de dédier, sur les ressources qu'elle mobilise. Alors évidemment, quand quelqu'un le fait de manière extraordinaire, on me dirait, on avait presque le plan, mais je veux dire, ce qui est aussi important, c'est que politiquement, le signal adressé aussi au gouvernement australien, il est un réinvestissement, et c'est un réinvestissement qui s'inscrit dans une perspective plus large, voulue par le président de la République et le gouvernement, de réinvestir à nouveau dans notre réseau diplomatique, d'y recréer des postes qui ont été supprimés
auparavant.
Normand pendant plusieurs dizaines d'années. Donc ça marque aussi un investissement et c'est pas un hasard si dans cette zone du Pacifique on recrée un consulat à Melbourne, on crée une ambassade au Samoa. Donc là il y a vraiment une volonté de la France de réaffirmer sa présence et son soutien à la communauté française, à nos entreprises et à la relation bilatérale et plus largement à la relation avec l'Indo-Pacifique. Donc c'est vraiment une excellente nouvelle qui traduit une orientation politique très forte.
Alors c'est important ce que vous dites parce qu'il faut le voir au-delà des frontières australiennes. Vous le dites, c'est l'implication de la France dans toute la région Indo-Pacifique. Et c'est, on le sait qu'à l'époque, c'était un des axes d'Emmanuel Macron quand il parlait de cet axe Indo-Pacifique qui venait jusqu'à Canberra. Ça a été un petit peu écorché aussi, on le sait également, on va pas revenir dessus. Ce qui est intéressant de voir de l'extérieur, c'est que c'est quand même un acte de maturité presque de la France de dire « Ok, il s'est passé ce qui s'est passé ». On tire un trait dessus et nous, on va faire ce qu'il faut pour que la relation soit pérenne et s'améliore, que ce soit juste un écorchement et non pas simplement quelque chose de beaucoup plus grave dans la relation.
Absolument, nous avons une relation qui a plus de 200 ans avec l'Australie, qui plonge ses racines dans notre passé très lointain.
Et avec beaucoup de « et si hein. ». Et si l'Australie aurait pu être différente hein.
Oui, ça, on aime bien reconstruire l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, en fait, c'est la volonté en fait, du président de la République de se projeter en fait, dans un futur commun avec l'Australie et plus largement avec l'ensemble du partenariat Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, c'est 2 millions de citoyens français. Ça fait beaucoup de monde. On a une présence affirmée, pérenne, que l'on souhaite développer. L'Australie est un partenaire majeur. Et donc, il faut voir, en fait, dans cette création d'un consulat général à Melbourne, un acte de confiance dans la relation avec l'Australie et avec une belle feuille de route bilatérale qui doit se décliner sous des échanges culturels dont on a parlé, mais aussi scientifiques, éducatifs, économiques et bien sûr en matière de défense et de sécurité. Donc ça, on est vraiment dans la mise en place et la déclinaison de cette belle feuille de route endossé par nos deux gouvernements.
Et ce qui est intéressant aussi de se rappeler, parce qu'il y a aussi, il y a des Français qui écoutent ce programme, mais il y a aussi des francophones qui écoutent ce programme, mais il y a aussi des anglophones qui apprennent le français. La France et l'Australie sont voisins. Il y a la Nouvelle-Calédonie, et on sait à quel point la France est attachée à la Nouvelle-Calédonie, et les Calédoniens l'ont réaffirmé leur attachement à la France récemment. Donc ça veut dire qu'on est voisins. Donc c'est en tant que voisins, il faut aussi avoir des bonnes relations. C'est des relations de bon voisinage en fait, tout simplement.
Et alors, on est triplement voisins, si je peux
en
dire.
Plus,
c'est
oui.
Que si on regarde vers l'ouest, vous tombez quelque part vers l'ouest, un peu au sud, sur le plateau des Kerguelen, et là vous rencontrez une zone commune avec la France. Vous montez un peu vers le nord, toujours en regardant vers l'ouest, vous tombez sur la Réunion puis Mayotte. Vous regardez vers le sud, nous avons nos territoires, mais ce ne sont pas des frontières officielles, mais des territoires en Antarctique qui ont une frontière commune, sans doute une des plus longues frontières terrestres communes entre la Terre Adélie et le territoire administré par l'Australie en Antarctique. Et évidemment, si vous regardez plus près à l'est, vous avez la Nouvelle-Calédonie et plus loin nos territoires de Wallis et Futuna, mais aussi la Polynésie française. Tout ça crée en fait une chaîne, j'allais dire, de compagnonnage avec l'Australie qui est extrêmement importante dans notre action commune pour assurer notamment une action déterminée sur les conséquences du changement climatique ou assurer la sécurité maritime dans toute cette zone.
Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique. Je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton, à gagner dessous, à dormir dessous les ponts. Paris bohème, Paris médèque, Paris d'encre et d'exil. Je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville. Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier. Je vois la vie en rose.
Gaël Faye et sa chanson Paris Métèque qui fait partie de notre sélection musicale en ce mois de juin. C'est la fin de notre programme, merci de l'avoir écouté. Un prochain rendez-vous c'est donc demain à 13h avec notre émission en français bien entendu et sur notre site internet sbs.com.au/french. Je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Thank you. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.